Malgré toutes les paroles de Moïse au peuple, l'exhortant à demeurer loyal à l'Éternel, il sait et a prophétisé que les Israélites se détourneront de leur Créateur au profit des idoles. Ils seront certes sévèrement jugés, mais Dieu ne les abandonnera pas pour autant, car il demeure fidèle aux promesses qu'il a faites aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Il est encourageant de savoir que le Seigneur de toute la terre ne se comporte pas comme un homme capricieux, mais qu'il est le rocher des siècles. Ce qu'il dit, il le fait, indépendamment de ma conduite lunatique. Je lis dans le chapitre 30 du Deutéronome. « L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être, et qu'ainsi vous viviez. Il infligera alors toutes ces malédictions que je vous ai décrites à vos ennemis, à ceux qui vous haïssent et qui vous auront persécuté. » Versets 6 et 7. Précédemment, Moïse a dit que les Israélites seront dispersés parmi les nations, qu'ils se repentiront, que l'Éternel les ramènera dans leur pays et qu'ils y seront plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres. En cinquième lieu, Dieu promet une circoncision spirituelle qui purifiera Israël de tous ses mauvais penchants. Cette transformation du cœur sera accomplie par l'Éternel lui-même dans le futur. Elle constitue le deuxième grand volet de la restauration d'Israël, le premier étant le retour de l'exil. Cette promesse sera réitérée par plusieurs prophètes. Je cite un passage caractéristique que je compresse. « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare. Car je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Fin de citation. Cette circoncision du cœur est développée dans le Nouveau Testament. La sixième promesse de cette succession est le jugement des ennemis d'Israël. Je continue le texte. « Quant à vous, vous reviendrez à lui. Vous l'écouterez et vous appliquerez tous ces commandements que je vous transmets aujourd'hui. L'Éternel, votre Dieu, vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous donnera de nombreux enfants. Il multipliera votre bétail et vous accordera d'abondantes récoltes. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à votre bonheur, comme il prenait plaisir à celui de vos ancêtres, lorsque vous l'écouterez en obéissant à ses commandements et ses ordonnances consignées dans ce livre de la loi, et que lorsque vous reviendrez à lui de tout votre cœur et de tout votre être. » Versets 8 à 10. La septième et dernière promesse est que les Israélites obéiront enfin et sans rechigner à tous les commandements de Dieu, suite à quoi ils recevront sa pleine bénédiction. C'est comme si on venait de terminer un tour complet de l'histoire du peuple élu. Depuis le moment où Moïse l'exhortait à entrer dans le contrat d'alliance et à suivre les ordonnances de l'Éternel de tout leur cœur. Mais ils se montraient rebelles, et on connaît la suite qui nous ramène à nouveau ici, à la case départ. Selon ce passage, c'est le cœur circoncis et rempli d'un esprit d'obéissance que les Israélites retourneront dans leur pays pour y demeurer et y être bénis. Cette prophétie ne s'est pas encore accomplie, car aujourd'hui, Israël est une nation très sécularisée, avec en son sein un certain nombre de Juifs qui sont religieux jusqu'au bout des ongles, mais qui rejettent toujours leur Messie. Je continue. « Le code de loi que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise, qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise « Qui traversera pour nous les mers pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer ?» Non. La parole est toute proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. Versets 11 à 14. Ce passage insiste une fois encore sur la valeur de la loi et l'exigence de sa mise en pratique. Israël n'a pas d'excuse. S'il n'obéit pas au commandement de l'Éternel, c'est en raison de sa mauvaise volonté, de son caractère rebelle, et non pas de la loi elle-même qui est compréhensible, applicable et à la portée de tous. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, utilise ces formules pour les appliquer non plus à la loi, mais à l'Évangile qui apporte le salut par la foi en Jésus-Christ, en vertu de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. En conséquence, chaque être humain est responsable de saisir la vie éternelle qui se trouve en la personne de Jésus. Il n'est pas nécessaire de monter au ciel ni de traverser l'océan pour trouver Dieu. Il est sur mon pas de porte, celle qui ouvre mon cœur. Je suis libre de le laisser entrer ou pas. Moi, j'apporte ce commentaire biblique jusqu'à vous, mais je ne peux pas aller plus loin et prendre une décision à votre place. Je continue le texte. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous a fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Versets 15 à 16 et 19 à 20. L'amour de l'Éternel, l'obéissance à sa loi, et la vie sont étroitement liés. Ce texte consacre d'une manière éclatante la liberté morale de l'homme et la négation du fatalisme oriental, ce qui ressort d'ailleurs d'une foule de passages de la loi de Moïse. Ce chapitre a révélé le cœur de Dieu. Son dessein et son désir ne sont pas la mort et le malheur de son peuple, mais au contraire, sa vie et son bonheur, une vie riche, pleine et féconde, comme Dieu l'a créée. Celle-ci est inséparable de l'amour de l'Éternel et de l'obéissance à sa loi. En conséquence, Israël est exhorté à exercer sa responsabilité et à effectuer le bon choix. C'est ainsi que nous sommes rendus maintenant au chapitre 31, qui nous amène à la fin de la vie de Moïse. Depuis l'Égypte jusqu'aux portes de la Palestine, il fut le personnage clé, l'intermédiaire entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Il va donner ses derniers conseils au peuple. Les quatre derniers chapitres de ce livre forment une sorte d'appendice à tous ses discours. Je commence à lire. Moïse adressa à tout Israël le discours suivant. « J'ai maintenant 120 ans. Je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici. L'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Il détruira devant vous les nations qui habitent là-bas, pour que vous puissiez prendre possession de leur pays, et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. » Versets 1 à 3. à cause de sa faute, il n'était pas permis à Moïse de traverser le Jourdain. De toute façon, le vrai chef de l'expédition qui donnera la victoire, c'est l'Éternel. Mais il exécutera sa volonté par l'intermédiaire de Josué. Le travail de Moïse était terminé. Mais le programme de Dieu allait continuer. Il s'agit d'une passation de pouvoir en public. Josué devient, à la suite de Moïse, le nouveau médiateur entre l'Éternel et le peuple. Je continue plus loin. Prenez courage, tenez bon. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Versets 6 à 8. Cette exhortation au courage est souvent répétée dans les textes sacrés. En se confiant en l'Éternel et en lui obéissant, ses serviteurs n'ont rien à craindre car il combattra pour eux. Cependant, l'homme est naturellement peureux. Et il faut aussi se rappeler que la génération précédente fut terrorisée et refusa de conquérir le pays de Canaan. Donc Moïse sait bien que cet encouragement de sa part n'est pas superflu. Surtout que les peuplades que les Israélites vont attaquer sont plus nombreuses qu'eux, mieux armées et bien installées dans des villes fortifiées. Même Josué, aussi valeureux soit-il, ne doit pas en mener tellement large devant la tâche qui lui est confiée. Je continue. Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'Alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Verset 9. Le livre du Deutéronome commence avec ces paroles. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël à l'est du Jourdain dans le désert. Maintenant, c'est chose faite, et tous ces discours ont été consignés par écrit. Ils font partie de la loi. C'était aux prêtres de la garder et de la lire au peuple. Mais la responsabilité de son application incombait à ces responsables qu'on appelle les anciens. Je continue en compressant. Tous les 7 ans, lors de la fête des cabanes, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à révérer l'Éternel, votre Dieu, et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Versets 10 à 12. Au commencement de chaque année sabbatique et au moment de la fête joyeuse des cabanes qui ouvrait l'année civile, le peuple entier et même l'étranger devait participer à cette lecture qui imprimait le sceau de la sainteté à toute la vie nationale. C'est la seule célébration où la présence des femmes et des enfants est exigée. Les hommes seuls étaient tenus d'assister aux autres fêtes. Je continue. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que le moment de ta fin approche. Fais venir Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué se rendirent à la tente de la rencontre et se tinrent à l'intérieur. Là, l'Éternel leur apparut dans la colonne de nuée qui se tint à l'entrée de la tente. Versets 14 à 15. L'entrée de Josué dans le sanctuaire et la manifestation divine constituent le sceau apposé par l'Éternel à la nomination du successeur de Moïse. Maintenant, c'est lui le patron. Je continue plus loin. Et maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Toi, Moïse, tu l'apprendras aux Israélites. fais-le-leur chanter afin que ce cantique me serve de témoin contre eux. En effet, je les ferai entrer dans le pays où ruisselle le lait et le miel que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Ils y mangeront à satiété et vivront dans l'abondance. Alors, ils se tourneront vers d'autres dieux et leur rendront un culte. Ils m'irriteront et violeront mon alliance. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur eux. Alors, ce cantique servira de témoin à charge contre eux, car leurs descendants ne l'oublieront pas et ne cesseront pas de le chanter. Je connais, en effet, les dispositions de leur cœur dès à présent, avant même que je les fasse entrer dans le pays que je leur ai promis par serment. Versets 19 à 21. Une copie de la loi était conservée dans le tabernacle, le centre de tout le culte israélite. Une portion de cette loi sera également gravée sur la pierre dressée sur le mont Ébal, comme cela a déjà été dit. Maintenant s'ajoute un cantique qui sera un rappel constant de la volonté divine à l'égard de son peuple. Cet hymne servira de témoin à charge contre les Israélites infidèles. Plus tard, il expliquera pourquoi le peuple se retrouvera dans une très grande détresse. Les prophètes et le Nouveau Testament y font souvent allusion, ce qui prouve qu'il a eu un réel impact sur la nation d'Israël. Je continue plus loin. Maintenant, rassemblez autour de moi tous les responsables de vos tribus. Je leur communiquerai les paroles de ce cantique et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Je sais, en effet, qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner du chemin que je vous ai prescrit. Alors le malheur fondra sur vous dans l'avenir, parce que vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme mal et que vous aurez provoqué sa colère par vos actes. Moïse transmit donc à toute l'assemblée d'Israël le cantique suivant dans sa totalité. Versets 28 à 31. Au moment de mourir, Jacob, l'ancêtre de la nation d'Israël, avait rassemblé ses 12 fils autour de lui et avait prédit à très grands traits leur avenir individuel. Moïse fait de même avec toute la nation constituée des 12 tribus combattantes, plus les descendants de Lévi qui sont toujours comptés à part à cause de leur ministère sacerdotal. De la même manière que la nation d'Israël va se détourner de la loi, les églises chrétiennes officielles connaîtront l'apostasie, une chute vertigineuse de la foi. Ce que Jésus avait d'ailleurs lui-même prédit lorsqu'il a dit « Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? » Fin de citation. La construction grammaticale de la phrase exige une réponse négative. Non, il n'y aura plus guère de foi lorsque Jésus reviendra sur terre. Ces paroles sobres m'interpellent. Vais-je demeurer fidèle au Seigneur ? Toutes les grandes familles d'Église issues du mouvement de la Réforme ont totalement déserté les Écritures. Une majorité de ceux qui se disent protestants ne croient même pas en l'existence de Dieu. J'ai une fois entendu un ancien premier ministre que je ne nommerai pas dire devant les micros de la télé qu'il était un protestant athée. C'est sans commentaire. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.